L'esprit du rivage, légende de la mer, par Pierre Jacques Elias. Deuxième cassette, première face, page 70. Île de Sein, S-E-I-N, 1940. Met pa daolas anheol et sein a rentabam, ne doa ket chenchet lech. Celle-ci est la dernière née de nos légendes. Toute fraîche encore de son éclosion, elle a déjà pris la couleur du temps. Elle est plus irréelle qu'aucune autre et plus humaine à la fois, parce qu'elle est venue se prendre comme une étoile d'or à la trame de nos vies dans des jours entre tous nos jours pathétiques. C'était un soir du mois de juin. Par-delà les Gorlées, G-O-R-L-E accent aigu, Tevenec, T-E-V-E-2-N-C, et la Vieille, V-I-E-I-2-L-E, un cri d'alarme est parvenu du Cap Sizun, S-I-Z-U-N, jusqu'à l'ultime îlot prophétique des neuf saines vierges et des sept sommeils, jusqu'à la basse terre de Sein, longue et mince couture d'horizon qui unit l'immense mer au ciel immense. La grande terre est conquise aux Germains, le sable des trépassés porte l'empreinte de leurs bottes. Les gars de Sein, d'un seul bond, sautent en barque. Kenavo, K-E-N-A-V-O, c'est-à-dire au revoir. Kenavo, ma femme et ma mère, mes petits-enfants, Kenavo, vous me serez chers à jamais et je vous reviendrai quand viendra le temps du retour. Mais aujourd'hui, quel homme pourrait rester ici quand les franchises sont perdues? On n'enchaîne pas un Ilien quand il lui reste la mer. Kenavo, Bretagne, notre cœur se fend. Plus une barque au port, plus un pêcheur au quai. La vague les a tous menés vers le pays saxon. Brozaoz, B-R-O-Z-A-O-Z, c'est le nom breton de l'Angleterre. Avec le fardeau de leur peine et leur grand mal de liberté. Et la nuit venue, dans toutes les maisons de l'île basse, vieille mère ou jeune épouse, pas une femme qui ne veille. Ah, que nous voudrions suivre nos hommes avec l'île pour barque. Bretagne, notre cœur se fend. Que nous voudrions suivre nos hommes vers les falaises du pays saxon, si seulement pouvait nous servir de radeau ce peu de terre-ci, au péril des Germains qui sont à l'arrêt devant, sur le rocher du cap de la terre. Et c'est alors que l'île tressaillit à la déploration des pauvres chairs. Toute frémissante, l'île s'arracha des fonds sous-marins, et la voilà qui flotte au bercement de la houle, impatiente et légère, et qui prend déjà congé du feu de la vieille, pendant que retentit le cri des femmes, chacune à son aviron et souquée. Et les rames des filles de Sein, dans la nuit profonde, peinent dures. Bretagne, notre cœur se fend, et les rames des filles de Sein, à chaque tirée, gagnent au cap du pays saxon où leurs hommes ont touché terre pour se garer de servitude. Mais quand tomba sur l'île basse le premier rayon du soleil suivant, Sein n'avait pas changé de place. Je voudrais te dire deux mots au sujet de cette légende. Comme le dit Pierre Jacques Elias au début, c'est la dernière née des légendes bretonnes. Il faut que je te replace cela dans un cadre historique, d'histoire assez récente. En 1940, comme tu le sais, c'était la guerre et les Allemands ont envahi la France. Ils ont envahi la France jusqu'au bout de la Bretagne, mais à l'île de Sein, les hommes sont tous partis en Angleterre pour suivre le général de Gaulle. Tous les hommes, et sont restés les femmes et les enfants. Voilà l'événement réel. Bien sûr, l'île qui flotte et les femmes qui rament en entraînant l'île comme un radeau, et l'île qui revient au lendemain matin à sa place habituelle, c'est la légende. Maintenant, je crois que tu pourrais recommencer et écouter cette légende pour mieux la comprendre. Page 73, les sabbats du Cap. Sabbat, S-A-2-B-A-T, avec un S pour le pluriel, bien sûr. Dans la terre du Cap Sizun, il y a de grosses graines qui ne germent jamais. Ce sont les vases magiques qui furent enfouis autrefois pour jeter le mauvais sort sur les personnes et les biens. Rien d'autre que de la vaisselle commune, d'une pâte généralement grise et mêlée de sable, quelquefois jaune ou rouge. Si vous avez la faiblesse d'aimer les trésors, prenez soin d'avoir sur vous un objet béni à la grand-messe des rameaux avant d'enfoncer votre bêche en terre. Dès que la jarre, l'écuelle ou le pot apparaîtra, jetez sur lui l'objet en question sans réfléchir plus avant. Dans le vase au maléfice, vous trouverez des louis d'or et ces larges écus d'argent qu'on appelait des yeux de bœuf au temps où la fortune s'appréciait au nombre d'animaux qui pâturaient pour vous. Mais si vous n'avez pas sanctifié les rameaux, vous serez payé de cendres et de feuilles sèches. Tant pis pour votre avarice. Il y avait des voueurs, V-O-U-E-U-R-S, c'est-à-dire des sorciers, qui connaissaient les pratiques pour attirer le mal sur les victimes qu'on leur désignait. C'était d'abord les formules secrètes qu'il fallait débiter 9 fois sans reprendre haleine, sinon le châtiment demandé retombait sur l'apprenti sorcier. Et c'était des objets d'incantation qu'on enterrait dans les fameux vases. Fleurs de genêt ou de soucis, grains de blé en nombre impair, graines de fougère, balles d'avoine, feuilles de l'arbre à foudre qui est le chêne. Pour des rites plus graves, on prenait le cœur et le foie des grands animaux, le dard de la vipère, l'œil gauche du crapaud, la tête ou la queue du lézard, la poule noire ou la chouette. Mais on avait garde de toucher ni au chat ni au bouc, serviteur du diable. Enfin, pour les plus grands jeux, on profanait de nuit les cimetières. On y faisait provision d'eau, de dents, de cheveux et même de cadavres d'enfants morts-nés. Et le tout passait dans les pots qu'on enterrait dans la maison, sous le lit, sous le seuil de la porte, dans le puits, quand il s'agissait de frapper une personne, dans les étables, les pâturages et les landes pour faire boiter ou mourir les animaux. Là où les pots sont enterrés, la terre sonne sous les pas. Les gens du sabbat étaient nombreux et puissants dans le Cap. Le cap dont on parle, c'est la pointe du Raz, R-A-Z, en l'extrémité ouest de la Bretagne. Le Raz de Saint, c'est le détroit qui passe, qui est entre l'île de Saint et la pointe du Raz. C'est des régions extrêmement dangereuses au point de vue navigation. Le père Maunoir, M-A-U-N-O-I-R, le célèbre prédicateur du XVIIe siècle, qui avait pourtant mis au jour bien des horreurs secrètes en luttant contre ce qu'il appelle les iniquités de la montagne, fut proprement épouvanté quand il prêcha sa mission de Cléden, C-L-E accent aigu D-E-N, et de Plogoff, P-L-O-G-O-2-F. Encore n'arriva-t-il pas à faire le tour des abominations. Sur les vagues du Raz de Saint, soulevées au gré des anciennes prêtresses, dont la mémoire nous a été transmise par Pomponius Mela, P-O-M-P-O-N-I-U-S, plus loin M-E-L-A, d'autres incantations magiques s'élevaient certaines nuits. Quelques veuves de l'île, les vieilles du sabbat, avaient reçu en naissant le don de vouer, V-O-U-E-R. Elle célébrait les messes noires de la mer dont on ne connaît pas bien les rites. Quelqu'un les payait grassement pour faire disparaître un offenseur, un rival ou un ennemi. Elle prenait la mer sur le bateau sorcier, une curieuse embarcation en forme de mannequin, où elle ne pouvait tenir qu'accroupie sur les talons et qu'elle gouvernait au moyen de leurs bâtons à goémonées, tandis que leur tablier noir tenait lieu de voile. Au milieu du rat, elle rencontrait les esprits des eaux qui étaient peut-être les anciennes prêtresses des possédés. À trois reprises, elle leur remettait un objet ayant appartenu à la future victime. Le troisième sabbat célébré, c'en était fait du malheureux. Quand une barque de pêche attardée sur la chaussée de Saint se trouvait bord à bord avec le bateau sorcier, la vieille au mauvais œil glissait dans l'oreille du patron un secret qu'il ne devait jamais révéler sous peine de naufrage corps et biens. Il n'avait même pas le droit, ni lui ni son équipage, de parler de sa rencontre s'il ne voulait pas mourir dans la semaine. Mais on savait que quelqu'un avait trouvé la vieille à ceci. Le sang se retirait de son visage pour le reste de sa vie. La dernière voueuse dont on a conservé le souvenir est une certaine Catouche, C-A-T-O-U-C-H, qu'il est préférable de ne nommer ni dans l'île ni sur le cap. Et cependant, la mer droite et la mer gauche causaient entre elles à longueur de nuit. Les crieurs élevaient leurs appels lamentables pour demander la sépulture de leurs corps errants. Le rocher de Tevenec, T-E accent aigu, V-E-2-N-E-C, était si étroitement couvert d'un peuple de morts qu'aucun vivant ne pouvait y mettre les pieds, aucun oiseau ne pouvait y poser la patte sans entendre les protestations de celui dont il prenait la place. Quelquefois, ces morts devenaient visibles. Ils défilaient par sept dans leur accoutrement de mer. Ils processionnaient avec des cierges vers l'enfer de Plogoff, le porche des trépassés. À chacune de leurs apparitions, il y avait tempête ou naufrage quelque part. Ils n'apparaissent plus, dit-on. C'est sans doute que leurs âmes sont entrées dans la joie. Il n'y a plus de sabbat sur l'étrave du rat. Le dernier porte-sortilège, déchu de toute puissance, c'est peut-être le mannequin Toby, T-O-B-I, que l'on brûle à Saint le mercredi des cendres. Page 77. Les Birvido, B-I-R-V-I-D-E-A-U-X. Keram breder ager mordon, les ambes ergibles hagel goumon. Repère, R-O-P-E-R-H, R-E-R, maçon, M-A-S-O-N. Au large de la côte sauvage de Quiberon, une lumière brille dans le ciel de nuit. C'est le phare des Birvido, le cierge planté sur le tombeau marin de la ville d'Aïs, A-I-T-R-E-M-A-S-E, et le dernier signal qui la rappelle au monde des vivants. Elle repose sur un plateau noyé par la mer et seuls quelques récifs émergent encore, des brisants nus et cerclés d'écume qui furent autrefois le cœur des douces collines d'Aïs. C'était au temps où il n'y avait qu'un saut de cheval entre l'île d'Ouat, H-O-U-A-T, et la pointe de Quiberon. Je ne vous parle pas d'hier. Alors les habitants d'Aïs, les Birvido, aimaient venir entendre la messe à Kermorvan, K-E-R-M-O-R-V-A-N-T, qui était un village de la presqu'île, ou bien à Quiberon. Ils y venaient portés à dos d'âne et ils cheminaient tranquillement sur une belle chaussée de galets. Et puis la mer se mit à mordre les galets. Petit à petit, elle digéra la chaussée dans son ventre mouvant, et Aïs devint une île qui n'arrêtait pas de rétrécir. Les Birvido, des Iliens désespérés qui voyaient s'éloigner la grande terre. Ils construisirent des bateaux pour se rendre à leur messe du continent, mais ils ne pouvaient pas toujours franchir le détroit. On dit qu'aux archives de Quiberon, il y avait naguère une pièce, dûment signée du curé du lieu, qui absolvait les Birvidos d'avoir manqué l'office du dimanche à cause du gros temps et de la mauvaise mer. Et à la fin, par une année de grande tempête, Haïs tout entière descendit sous les eaux. Elle descendit d'un bloc avec les Birvidos qui n'avaient pas voulu la quitter. Ils y demeurent vivants dans les profondeurs en récompense de leur insigne fidélité à leur ville. Quand les vagues roulent et sonnent au large de Quiberon, d'étranges voix humaines se mêlent à leur fracas. Ce sont les enfants d'Aïs qui pleurent leur destin. Les Birvidos se nourrissent de moules bleues et de patelles grises. Ils vivent avec les crabes dans les grottes et ils errent en gémissant par les rues de leur ancienne ville où passent, fugitifs, de longs bancs de poissons. Font-ils un temps de purgatoire pour de très vieux péchés que nous ne savons pas ? Ou refusent-ils par attachement d'abandonner Aïs aux muets abîmes ? Mais certains croient savoir que l'Aïs des Birvidos est devenue le rendez-vous des naufragés de la mer. Ils y attendent une obscure délivrance, ou peut-être y ont-ils trouvé leur paradis. Qui le dira jamais ? Chaque année, le pardon de Saint Colomban, C-O-L-O-M-B-A-N, est le jour de gloire des Birvidos. Ce matin-là, ils quittent les ruines d'Aïs la sous-marine, ils suivent la trace de l'ancienne chaussée de galets, et ceux qui ont la permission peuvent les voir apparaître sur les falaises de Quiberon, enveloppés de manteaux rouges vifs. Ces manteaux sont tissés de feu pur, et ils protègent les Birvidos de pied en cap quand ils émergent du froid brûlant des eaux salées. Robert Hermasson, c'est l'auteur des deux vers que tu as entendus au début en breton, Robert Hermasson les a vus. Il a écouté retentir leur Kyrie et leur Gloria dans la chapelle du Saint avant de chanter lui-même en vers breton la grande liturgie de ceux qui vivent au fond de la mer. Quand le pardon est achevé, la voix de la marée montante commande le retour des Birvidos. Les vivants de la terre amoncellent des fagots sur les collines et le recteur y met le feu. Le recteur, c'est le curé en Bretagne. L'un après l'autre, les habitants du plateau marin passent devant la flamme et y jettent leurs manteaux rouges vifs. Puis ils descendent vers les rochers de la côte et poursuivent leur marche sous les eaux pour retrouver Aïs l'engloutie. À l'instant où le dernier disparaît, la nuit recouvre la presqu'île et là-bas, dans une vague rumeur de plainte, s'allume le phare des Birvidos. Page 80. La sirène de l'île d'Ars, A-R-Z. Le golfe du Morbihan est l'image même du temps qui passe au grand calendrier des pierres dressées dans les champs de Carnac, C-A-R-N-A-C. Il y a autant d'îles dans le golfe que de jours dans l'année. Certaines sont des jours arides et déserts, des mercredis des cendres, des vendredis de contrition. D'autres ont la ferveur tranquille des beaux dimanches. Et quelques-unes célèbrent, dans la verdure et les fleurs, les grandes fêtes de l'âme et du corps. Telle est cette île, dont le vieux nom d'Izena, I-Z-E accent aigu N-A-H, dont le vieux nom d'Izena s'est perdu, et qu'on appelle aujourd'hui l'île aux moines. Elle était Izena, au temps où le golfe abondait en merveilles. Les eaux vibraient encore certains soirs du son des cloches immergées. L'Ankou, A-N-K-O-U, lui-même se promenait au hasard des courants, sans faux ni charrette, et sa grande main poussait les navires sur les récifs. Mais de Gavrinis, G-A-V-R-I-N-I-S, à Conlo, C-O-N-L-E-A-U, un esprit familier mettait les marins en garde contre les traîtrises du vent. Ce pôtre, P-O accent circonflexe T-R, était un fin marin. La nuit, il aimait à s'embarquer tout seul sur un bateau désarmé dans un port des îles. On l'entendait remonter l'ancre, équiper les voiles et appareiller. Au matin, le bateau était revenu, toutes choses en place à bord, comme s'il n'était jamais parti. Quand une tempête s'annonçait, le pôtre la flairait avant les premiers signes. Sa voix s'élevait sur le golfe pour avertir d'attacher fort les barques au mouillage. « Amarre !» Jamais il ne s'est trompé. En ce temps-là, Iséna n'était pas encore séparée d'Ars, sa voisine. Une étroite chaussée les reliait l'une à l'autre. Mais les gens d'Ars n'étaient que des pêcheurs, tandis que ceux d'Iséna parcouraient les mers du monde sur de grandes frégates pour le commerce. Ces marins d'Iséna étaient des seigneurs de la mer, des sortes de gentilshommes qui auraient cru déroger en faisant compagnie avec leurs pauvres voisins. Or, il arriva que l'un d'eux s'éprit d'amour pour une fille d'Ars, au grand désespoir de ses parents. La fille d'Ars était très belle, plus belle que les filles d'Iséna dont la réputation de beauté court encore le monde. Et elle chantait d'une telle voix qu'on avait peine à croire qu'elle était née d'un simple pêcheur. Le gentilhomme d'Iséna cessa d'entendre la voix nocturne du pôtre qui jouait avec les frégates pour ne plus écouter que le chant de sa bien-aimée. Et il parla de l'épouser ou de mourir. Alors les parents allèrent trouver les moines et les prièrent de garder leur fils dans une de leurs cellules pendant le temps qu'il lui faudrait pour revenir à la raison. Peut-être aurait-il guéri dans la solitude si la fille d'Ars, de son côté, n'avait éprouvé pour lui le mal d'amour. Quand elle sut qu'il était enfermé chez les moines d'Iséna, elle traversa la chaussée tous les jours pour chanter à son ami sous les murs du monastère. Sa voix était si douce que le gentilhomme en défaillait dans sa prison. Elle était si belle que tous les habitants de l'île s'arrêtaient de respirer, si pleine de sortilèges que les moines eux-mêmes en perdaient le fil de leurs oraisons. Le prieur y vit une manifestation du démon et il fit ce qu'il fallait pour en préserver ses ouailles. Une nuit, la chaussée qui menait d'Ars à Iséna disparut sous les eaux. Reléguée dans son île, la chanteuse perdit courage et se jeta dans la mer. Depuis que les grands voiliers ont fait leur temps, la voix du pôtre n'appelle plus dans le golfe. Peut-être désormais appareille-t-il en silence sur les vaisseaux fantômes d'Iséna. Mais les histoires d'amour triomphent des changements du monde. La fille d'Ars est devenue sirène dans les parages d'Iséna, où sa voix merveilleuse élève une plainte qui n'est pas près de finir. Iséna sourit dans les eucalyptus et les mimosas. Elle vous accueille au débarqué, dans les pins de son bois d'amour. Est-ce par hasard, ou en souvenir de la légende, que sa carte du tendre vous conduit doucement vers un bois des soupirs et un bois des regrets. Page 82. La biche blanche de Ninoch. N-I-N-O-C'H. Alas, mamam, lavariddin, perus peglas, indan ilis. Entre la pointe du Pouldu, P-O-U-L-D-U, et la grande bouche du Blavet, B-L-A-V-E-T, sur l'étang de l'Anenec, L-A-N-E accent aigu, N-E-C, et la lande Biwe, B-I-O-U-E accent aigu, E, des trompes appellent parfois dans le brin de la nuit et retentissent au loin sur le coureau de Groix, G-R-O-I-X. Au long des grèves sonores, des abois de chiens se font écho, des jets d'épieux font trembler les feuillages, tandis qu'une lueur file comme un trait de hallier en hallier. C'est le fantôme d'une biche au galop léger qui fuit devant la chasse pour gagner l'oratoire de Sainte-Ninoch et trouver refuge dans le giron de la bonne dame, comme il y a 2000 ans. Or, les jeunes hommes qui usent leurs sabots à cette heure sur le chemin qui mène à leur belle amie doivent rester immobiles et bien tenir les yeux fermés en attendant que s'éloigne le train de la Lali. Quiconque a vu la biche blanche de Ninor au brin de la nuit doit mourir le jour de ses noces. Ainsi mourut jadis le comte Alain, le seigneur de la Sauderaie, S-A-U-D-E-R-A-I-E. Sa maison forte se dressait sur la côte et portait défi, depuis toujours, au créneau du manoir de Kérisouet, K-E accent aigu, R-I-S-O-U-E-T. Les deux gentilshommes gardaient querelle ouverte pour la possession des navires que les mauvais vents poussaient à la grève. Le sire de la Sauderaie avait pour son lot tout le mort et le vif qui passait le goulet du Loch, L-O-C-H. Celui de Kérisouet moissonnait le blé de naufrage depuis l'An-An-Ner, L-A-2-N, trait d'union A-N, trait d'union N-E-C-H, jusqu'au Pouldu. Mais souvent s'élevait querelle pour la possession des épaves, et les hommes d'armes des deux seigneurs, en camisole de cuir et chapeau de fer, descendaient sur le sable avec de sombres visages. Ils se mesuraient à grands coups, sans jamais pouvoir se réduire à merci. Et après chaque assaut, leur sang inutile était lavé au premier flux. Le noble homme de Kérisouet avait une fille du nom de Gertrude, fort aimée des pauvres gens qu'elle ne laissait pas manquer de pain, de harde ni de sabots. Elle fit tant pour la paix entre les deux parties que le sauvage comte Alain de la Sauderaie se prit d'amour pour elle. On fit une noce telle que les paroisses de Ploemeur, P-L-O-E-M-E-U-R, de Guidel, G-U-I-D-E-L, et de Clohar, C-L-O-H-A-R-S, s'en souviennent encore. Le soir tombé, les jeunes époux devisaient sous les arbres de Kérisouet, quand la biche blanche de Ninor passa devant eux comme une pierre de fronde. Derrière elle se déchaînaient les bruits de la chasse fantôme. Le comte Alain n'y put tenir. Il s'élança pour châtier les insolents qui forçaient une biche sur ses propres terres. On ne sut jamais ce qui arriva, mais on retrouva son cadavre et la belle Gertrude en mourut avant même d'avoir ôté la robe rouge de ses noces. Beaucoup plus tard, ces mêmes lieux furent hantés par le malheureux Guillon Varre, G-U-I-O-N-V-A-R-C-H, ce breton de bonne race, qui fut dérobé au berceau et nourri de jus de vipère par une touriganaise, une mauvaise fée. Dès lors, il ne pouvait pas connaître la paix. Mais il oublia si bien son destin qu'il se laissa promettre à la tendre Marie Vonig, la fille du bonhomme Guénahu, G-U-E-2-N-A, Utréma, le meunier de la Sauderaie. Un soir qu'il riait d'amour sous les murs du vieux château, la biche blanche surgit d'un fourré comme un épars d'orage. Le jour des noces, l'anneau se rompit quand Guillon Varre voulut le passer au doigt de Marie Vonig, et jamais les cierges ne voulurent s'allumer. Je ne vous dirai pas comment mourut le jeune homme au soir de ce même jour. Il y aurait de quoi glacer d'épouvante toutes les filles de Clohar, de Guidel et de Ploemeur, dont les prétendants usent leurs sabots de nuit pour aller les voir, au risque de croiser la biche de Ninor, le blanc présage de la mort. Page 86. Les rochers de Pinmar. P-E-N-M-A-R-C-H. Si vous voulez entendre une merveille des temps de courtoisie, je vous conterai comment un chevalier de Pinmar faillit perdre sa femme pour des paroles imprudentes et pour de vains enchantements. Mais cette femme lui fut rendue à cause du grand amour qu'elle avait pour lui. Il s'appelait Arveragus de Kérud. ARVERAGUS DE KE2RUD. Elle avait nom d'Origen, DORIGEN. Au rivage de Pinmar se trouvait leur demeure et ils s'y tinrent en joie pendant un an et plus après le mariage. Puis vint le temps où le chevalier désira partir vers Bretagne la Grande pour y gagner sa réputation dans les combats comme c'est le devoir d'un gentilhomme. Il devait y rester 2 ans. Il n'y avait pas 8 jours qu'il était parti, et déjà Dorigen, de soupirs en pleurs et de larmes en lamentations, se brisait le cœur à l'attendre. Jour après jour, on la vit au bord de la mer, espérant une voile. Elle s'épouvantait à la vue des rochers noirs qui barraient l'entrée du port de leurs dures échines, hurlant au flot avec des voix de bêtes. Ceux qui ont des hommes sur l'eau salée ne s'étonneront pas de sa frayeur. Ceux qui connaissent les redoutables entrées de Pinmar la prendront en pitié. Or, au matin du 6e jour de mai, des amis conduisirent Dorigen dans un verger où l'on dansait de belles caroles parmi les fleurs. La jeune femme n'avait pas le cœur à se divertir. Elle se tint à l'écart. Il y avait là un bel écuyer du nom d'Aurelius, A-U-R-E accent aigu, L-I-U-S, qui carolait mieux que tout autre. Depuis beau temps, il aimait Dorigen et composait, pour son honneur, des lais et des complaintes qu'il ne disait à personne. Ce jour-là, il ne put tenir son secret. « Dame, ayez merci de moi ou la mort sera mon partage. » Elle commença par se courroucer de cette audace. Et puis, comme le plaintif Aurelius ne cessait de l'importuner, elle crut qu'il était plus sage de tourner l'affaire en moquerie. « Damoiseau, dit-elle, je pourrai me résoudre à devenir votre amour quand vous aurez fait disparaître tous ces rochers qui éventrent les navires et engloutissent les marins aux abîmes. Et n'attendez de moi aucune faveur avant que vous ne l'ayez fait. En vain Aurelius adjura-t-il Lucine, L-U-C-I-N-E, la déesse lune, d'envoyer une telle marée qu'elle recouvre de 6 toises d'eau les roches les plus hautes pendant au moins 2 années pleines. Lucine est impuissante, ou bien elle ne l'entend pas. Et Arveragus revient de Bretagne la Grande. Dorigen et son époux passent leurs jours en grand bonheur l'un près de l'autre, tandis que l'écuyer s'épuise à consulter les livres de magie. Cependant, un frère d'Aurelius, un clerc de son état, entend parler d'un magicien d'Orléans qui est passé maître dans les spectacles d'illusion. Ils vont le trouver et le ramènent avec eux devant la mer de Pinmar, lui demandant de rendre invisible pour un temps les rochers noirs tapis devant la côte en troupeaux redoutables. Je ne saurais vous dire comment s'y prit l'enchanteur, sauf qu'il frappa dans ses mains et que la mer devint lisse et tendre comme la joue d'une pastourelle. Aurelius triomphant fit mander à Dorigen qu'il lui avait donné satisfaction et qu'elle eût à tenir sa promesse. Qui fut dolente et navrée, ce fut la dame fidèle. Mais quoi ? Tout en larmes, elle dut avouer son imprudence à son époux. Et le loyal chevalier, malgré sa douleur, lui commanda de se rendre dans la maison d'Aurelius et de devenir sa servante pour tout ce qu'il voudrait d'elle. Écoutez maintenant le meilleur du conte. Quand l'écuyer la vit venir, il en prit une telle pitié, il conçut tant d'admiration pour le magnanime Arveragus, qu'il renvoya Dorigen à son mari, franche de tout serment. Elle revint près de son chevalier, et ils vécurent jusqu'à la mort comme au premier jour de leurs noces. Mais le clerc magicien d'Orléans s'en retourna vers son pays. Dès qu'il fut parti, l'enchantement cessa et reparurent les rochers noirs devant les entrées de Pinmar. Hélas, Dieu nous assiste, ils y sont toujours. Page 89. Le pêcheur Nonna, N-O-2-N-A. La vérité, quand elle a beaucoup vieilli, prend les couleurs de la légende. Et le mensonge tout frais du jour sera peut-être la vérité demain. C'est pourquoi, je vous le demande, n'allez pas vous soucier de ce qu'il y a de vrai ou de faux dans l'histoire de petit Joseph au paradis. Cette année-là, les pêcheurs de Pinmar perdirent d'abord les traces du poisson. Ensuite, les marsouins leur mirent les filets en pièces. Enfin, la tempête démantela leur navire et fit sombrer la plupart d'entre eux. C'est à peine si quelques malheureux purent revenir à la côte sur des épaves. Le deuil et les larmes coûtent trop cher pour les pauvres gens. Ils n'ont pas de temps à leur donner. On n'avait pas fini de chanter les messes pour les morts que le besoin était là, suivi de près par la misère et la famine au visage blême. Le mois très noir, le mois de décembre, prit les affamés dans son poing tout froid. Désormais, ce n'était plus le battement du cœur, trop faible, qui témoignait de la vie, mais une douleur sourde au creux de l'estomac. Les coquillages du sable et des rochers ne suffisaient pas à l'apaiser. L'état de Goémon avait été brûlé au mois de septembre, comme de coutume. Le long de la côte, des fantômes humains erraient à la recherche de débris pour faire du feu. Mais la mer elle-même ne voulait rien rendre. Et le vent torturait les misérables carcasses sous les haillons de toile usés jusqu'à la corde. Il fallut s'en aller mendier chez les gens des terres, misérables eux-mêmes, mais dont les granges et les greniers ne sonnaient pas tout à fait le creux. En troupeau désolé, les femmes et les enfants remontèrent dans les terres proches pour solliciter la pitié des laboureurs. Mais le pêcheur Nonna dut se mettre lui-même en route. Sa femme était rendue de faim et ses enfants trop petits. Il se tailla un bissac dans un morceau de voile et partit tout seul vers le nord-est, là où l'on voit sur l'horizon des bouquets de ces arbres qui ne sont pas des pins stériles, mais qui protègent les métairies bien pourvues. Vers 4 heures de l'après-midi, notre homme arriva devant Kerbeskon, K-E-R-B-E-S-K-O-N-T. Il était sur le point d'ouvrir la barrière quand il dut s'asseoir sur les traces de ses propres pieds, les oreilles remplies du bruit de ses entrailles qui bourdonnaient plus fort qu'un nid d'abeilles. Une riche odeur remplissait la cour, parfumait les arbres et multipliait sa faim par 10. On préparait le café dans la maison. Bon, se dit Nonna, le café du Boudelan est la gourmandise des femmes. Les femmes ont le cœur plus tendre que les hommes. D'autre part, je préfère aller leur demander l'aumône plutôt qu'à leur mari. Moi qui suis un homme dans la force de l'âge, j'aurais honte de tendre la main à mes pareils, bien que je ne sois pas responsable de la misère qui m'est échue. Allons, courage mon garçon, je parierais qu'elles sont une demi-douzaine à papoter autour du pot à café. Et Nonna, doucement, s'approcha de la fenêtre entrouverte. Il avait tiré son chapelet de sa poche et il s'apprêtait à glisser un pater et un ave entre les battants quand il entendit une commère discourir en ces termes. « C'est une pitié, une honte rouge! Ces gens-là ont vu mourir leur fils unique avant qu'il n'aille aux armées. Un garçon si gentil, si poli avec tout le monde. Et eux, riches comme ils sont, à Kerstribil, K-E-R-S-T-R-I-B-I-L-H. Ils l'ont laissé descendre en terre avec des haillons sur le corps, autant dire, et sans le moindre gilet de laine, en plein hiver. C'est Saint-Pierre qui a été choqué en voyant le pauvre petit Joseph monter au paradis avec des pièces dans sa chemise. » Et le cœur des commères lui renvoyait ses litanies. « Pauvre petit ange, pauvre petit Joseph au paradis. « C'est un crève-cœur !»«
Mauvaise langue, cœur filandreux !» dit Nonna dans sa barbe. « Et les autres là-bas, à Kerstribil, doivent être avares comme un chien avec son os. Ce n'est pas encore grâce à eux que je remplirai mon bissac.
Ou peut-être le ferai-je si je me montre assez malin. Avec des gens pareils, il ne faut pas être trop honnête quand on veut rester vivant. Et le pêcheur Nona se retira sans bruit, la tête chaude et le pas vif. Un peu plus loin, il rencontra un vieillard qui fumait sa pipe à l'abri d'un talus. « Est-ce que je suis encore loin de Kerstribil, grand-père ?»«
Tout près, mon fils. Traversez ce champ découvert et descendez dans le vallon droit sur le verger de pommes que vous voyez devant vous. C'est là. Mais vous n'êtes pas de par ici, vous. Un homme de la côte, sans doute. On dit que les poissons se font plus rares que les poux. Est-ce vrai?
Je ne sais pas maintenant. J'étais pêcheur, oui, mais depuis quelque temps, j'habite au paradis.
Bredouilla le vieux en laissant tomber sa pipe entre ses sabots.
Et alors, pourquoi vous étonnez?
Il y a quand même plus de gens au paradis que sur cette terre, non? « Vous verrez, bonhomme. À bientôt. »
Nona descendit vers Kerstribil en espérant fermement que les hommes seraient encore au champ. À la campagne, il vaut mieux avoir à débattre avec les femmes, n'importe quel cheminot vous le dira. Elles tiennent la maison et la bourse. On peut les prendre de court sur certains sujets, là où précisément les hommes vous opposent la plus grande méfiance avec leur manie d'enfoncer les doigts dans les plaies du Christ avant de croire à la résurrection. C'est pourquoi le pêcheur fut joliment soulagé quand il entendit la voix d'une vieille femme lui crier d'entrer une fois qu'il eut fini de dévider son pater à haute voix sur le seuil. La maîtresse de la maison était penchée sur l'âtre, occupée à faire des galettes. Elle ne se retourna pas pour le regarder.
« La bénédiction de Dieu sur vous, ma tante, et sur toutes les âmes qui habitent cette maison. »«
Asseyez-vous sur le banc, mon pauvre homme, » répondit-elle. « Laissez-moi venir à bout de cette galette qui fait sa mauvaise tête. C'est la faute du vent aussi. Il n'arrête pas de virer. Vous venez de loin ?»«
De très loin. J'ai traversé un beau morceau du monde avant d'arriver ici. » Et je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je dois être rentré au paradis pour minuit sans retard. »
À ces mots, la femme abandonna vivement la galette à son noir destin et leva le dos. Il y avait de la surprise dans ses yeux très bleus, mais aucune peur. De toute évidence, elle vivait familièrement avec les trépassés. Quand elle vit son hôte si décharné, elle n'eut plus de doute.
Au paradis, Vierge Sainte, mais alors vous êtes mort?
Oui, mort, et depuis très longtemps.
Dites-moi vite, peut-être avez-vous vu là-bas mon fils, petit Joseph?
Nous sommes l'un à côté de l'autre. C'est lui qui m'a dit de venir à Kerstribil pour vous conter ses nouvelles.
Pauvre petit Joseph, il se rappelle encore sa mère. Et pourquoi n'est-il pas venu lui-même?
Il ne peut pas. Les êtres du paradis ne sont autorisés à descendre sur terre qu'après la mort de tous ceux qui les ont connus vivants. Avez-vous vu jamais quelqu'un de vos gens en chair et en os devant vous après sa mort?
C'est vrai, c'est juste. Et comment se trouve petit Joseph au paradis, le pauvre?
Il est dans la béatitude. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, mais une chose le tracasse. Rien d'important et tout de même, il dort près de moi. Et depuis que le temps a fraîchi, je l'entends frissonner de froid parce qu'il n'a sur le corps que de tristes vêtements de toile rapiécée.
Je ne sais pas comment, me dit-il souvent, ma mère m'a laissé venir ici sans le moindre gilet de laine. Non, je ne le comprends pas, car j'avais une bonne mère qui m'aimait de tout son cœur.
La fin de cette histoire est sur la deuxième piste de cette cassette que tu vas donc retourner. Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 94, L'esprit du rivage,
Légende de la mer par Pierre Jacques Elias.